L'Algérie chantée. Par Rachid Mortaré et Malik Alafer. Réalisé par Nasser Atoumi. Amis auditeurs, bonsoir. Rachid Mortari, bonsoir.
Amis auditeurs, Malika, bonsoir.
Alors, nous parlerons ce soir des repères historiques du début du XXe siècle. Donc, c'est le XIVe siècle de l'Hégire.
Oui.
Au début de 1900, l'Algérie donc, va observer un double mouvement dans la culture de la résistance. Dans la culture donc, de la résistance refus.
Comme nous l'avions vu à propos, justement, dans ce contexte de la résistance refus.
Et la révolte agraire, paysanne, voilà. Instinctive. Mmh. Il y avait aussi les bandits d'honneur,
oui.
Qui n'étaient pas porteuses donc, de projets politiques révolutionnaires, mais qui restent enracinés dans la sensibilité populaire. Mmh. Ça, c'est le premier mouvement. Quant à le deuxième, c'est l'amorce de la résistance dialogue avec le pouvoir colonial.
Mmh.
Le deuxième, ce que nous verrons donc aujourd'hui, ce soir, le deuxième sera donc pris en charge par une élite d'intellectuels algériens et sera l'expression d'une modernité dans les nouvelles formes de résistance. Il y a prise de conscience.
Une prise de conscience, oui. Progressive.
Progressive, hein. Oui. Les germes de la revendication de l'indépendance nationale, dont la lutte n'est plus frontale, mais syndicale.
Mmh, syndicale, mmh. Oui.
Cette résistance dialogue va être favorisée par les événements internationaux, notamment par la Première Guerre mondiale, 1914.
Oui, elle aura des répercussions, de grandes répercussions sur justement cette prise de conscience du mouvement national.
Donc, pour simplifier, on pourrait dire que c'était un mal pour un bien.
Oui.
On verra
oui.
Dans l'émission. Et la révolte d'octobre 1917 en Russie.
En Russie, bien
oui.
Sûr.
Je pense que ça a été... un grand événement. Mmh. Donc le colonialisme triomphant, on verra pourquoi, adopte des nouvelles armes. Il y a le code de l'indigénat, le code de la naturalisation, c'est ainsi l'époque de la conscription, c'est-à-dire l'obligation d'Algériens au front. Mmh. On emmène beaucoup comme ça des Algériens.
Oui, massivement. Et notamment, justement, pourquoi la Première Guerre mondiale a eu de grandes répercussions, parce qu'il y a eu une conscription massive d'Algériens au front de la Deuxième Guerre mondiale, avec toutes les expériences qu'ils ont eues. Bon, même si vous voulez, d'une manière tout à fait impulsive, ces Algériens qui ont été déportés, si vous voulez, d'une manière tout à fait provisoire, ils ont remarqué que les pouvoirs coloniaux ne sont pas, si vous voulez, ne sont pas le produit du destin, comme on le pensait à l'époque.
Donc à ces nouvelles mesures, il faut de nouvelles armes de combat pour les Algériens. Ils vont donc s'inspirer du pouvoir colonial. Hein.
Voilà, si vous voulez, ça, c'est cette dialectique entre les deux mouvements, le mouvement des luttes frontales et le mouvement des luttes par détour. Ce n'est plus une lutte directe, mais par détour de l'élite, de l'intelligentsia, qui caractérise ces premières années du XXe siècle.
Donc ce que nous verrons, c'est que cette élite intellectuelle va faire sortir l'Algérie de cette inertie.
Absolument.
De l'ankylose,
oui,
pour lui donner un nouvel élan historique.
بالبري ما يعيني صبرت قلبي للصبر ما باش لليليليلي صبرت قلبي للصبر ما باش للصبر ما باش للصبر والنار له بتجاش لليليليلي صبرت قلبي للصبر ما باش يا عيني يا عين كوني صبرا عزم لليليلي يا عين كوني صبرا عزم يا عيني صبرا عزم والصبر تم والفرش قدام لليليلي يا عين كوني صبرا عالسما
Le 14e siècle, l'Égypte a commencé le 12 novembre 1882, aube noire du 20e siècle, d'une Afrique ensanglantée, au nom du positivisme occidental triomphant. La colonisation directe ou sous forme de protectorat est désormais toute puissante. En Algérie, partout, la froide ligne droite a remplacé les arabesques. La colonisation agraire, le peuplement européen, la dépendance commerciale aux métropoles coloniales, partout, les sociétés maghrébines, l'Algérie plus que les autres, sont déstructurées, affamées, défigurées. La Tunisie est passée sous le joug colonial en 1880 et le Maroc en 1912. L'Algérie des années 1900, un pays ankylosé dont le dernier territoire reste hors de portée de la baïonnette, le Mzab, fut annexé à l'ordre colonial en 1882, presque sans combat. Comment renouveler une identité nationale meurtrie? Comment bousculer les profonds traumatismes? Le temps n'est plus aux complaintes agraires et vaines. Désormais, l'attente fantasmatique que du Messie de la trempe des compagnons du prophète. Les communes indigènes sont installées, recensent l'autochtone dérouté. Les bureaux arabes foisonnent. Les casernes militaires surveillent les campagnes et protègent les grosses fermes venues de la lointaine Alsace, au fronton opulent. Les chantres des épopées agraires, en ce début de siècle, de domination se sont tus. Fauchés par l'exil et la mort sur les routes incertaines de l'errance, Mohamed Belkhel s'éteint en 1905, sous le poids écrasant de 21 années de déportation à Calvi, en Corse. Si Mohamed Mohan meurt, rongé par la gangrène en 1906, l'émir Abdelkader en Syrie s'éteint en 1883. Défaite et mort d'illustres résistants qui, par l'action, l'esprit et le verbe ont transcendé leur présent, ne sont pourtant pas l'hécatombe. Car, si le pays est physiquement meurtri, d'autres forces moins collectives vont prendre le relais de l'amour viscéral, au prix duquel les masses paysannes, dans le plus terrible dénuement, se sont sacrifiées, juste pour l'essentiel, la terre, leur lieu natal, mais la dimension cosmique de tout attachement.
روحي يا شفايت العناد وبالسلامة انتي متهومة غير ابي يا عايرك ما تنجشي من حديث اشين الملومة اني في جيب الدنيا الحرة مثالك وبنات الاصول يكادوا في المخاصم يا ولش حان يزيدوا للشوايفات العناية خصلة هياكم يا الوصف الحرايم شوفي علالة منين معدوم ساجية بها يلغى كل شيخة مذكور دايما وحتى عرفت انت مفروغ من الذهب الغالية حورة في الدنيا من السيلة من بنادم سقامت قايد الذهب جيت قاصدك والقاصد الجواد ما يتصود وإندام خافي من ربي ودعوتي لا تحاسبك قادر تبخسي ولا يتصيبي مساوم آيام خافي من ربي ودعوتي لا تحاسبك قد تبخسي ولا يصيبي مسوم خان الظهر رداح طايغاكي طغايتك لي منزلها على بسبعين قامة في ظل قصر هالي عاشقفنا نعيد لك تذا خلاصك اللي ماتوا لأما آيام قالت له طمع وجيتها قصروا ايامك ذي رنجية على الميراي الحرمة كذا من سخاف عذبته بحالك شهد بين المور فيه اقصر من رخامة آيام
راشد مختاري la fin donc du 19e siècle voit la fin d'une expression orale de la résistance refus comme nous avons parlé tout à l'heure et de tous ces héros. Et pourtant, l'expression orale va continuer, et la poésie et le chant.
Oui, oui, effectivement, dans cette étape de la résistance refus, bon, nous allons rappeler quelque peu ce que nous entendons par résistance refus. C'est bien sûr cette époque des années 1832 jusqu'en 1871 avec les différentes révoltes agraires, mais qui n'étant pas porteuses de projets nationaux ont été donc matées. Mais il faut dire que dans cette époque de résistance refus, l'émir Abdelkader a dépassé ce cadre de résistance refus puisqu'il était le seul à l'époque porteur de projets nationaux. Alors, durant cette période, l'expression poétique de cette résistance refus n'a plus ses cadres d'expression à la fin du 19e siècle. Vous l'aviez souligné, c'est la mort donc des grands chefs, des grands poètes, n'est-ce pas, Mohamed Belkhair, c'est Mohamed que vous aviez cité. L'Algérie, à la fin du 19e siècle, est complètement défigurée, déstructurée dans ses profondeurs socio-économiques et tous les cadres de l'époque pré-coloniale, et notamment la terre, ont volé en éclats. Si bien que toute l'expression culturelle de l'oralité de cette résistance refus est comme déchue à la fin du 19e siècle, bien qu'elle persiste jusqu'à l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale.
Donc il y a des nouvelles formes d'installation coloniale, le recensement, l'installation des bureaux arabes, les cercles militaires. Comment s'est-il fait le recensement?
Alors le recensement c'était une des lois des lois qui ont accompagné les séquestres, c'est-à-dire au séquestre des terres a suivi entre guillemets, si vous voulez, on lui donne un autre sens, les séquestres donc des recensements. Vous voyez les recensements ont déformé la patronymie tribale de la famille élargie qui va être réduit au nom et prénom. Et oui, effectivement, ces noms et prénoms ont été totalement défigurés, puisque face à l'analphabétisme des populations, toute la patronymie, a été complètement chamboulée par ce recensement.
Donc un petit clin d'œil pour les tribus matriarcales, c'est là où on se retrouve avec des noms comme Ben Hamida, Ben...
C'est cela, oui. Mais il faut souligner que à la fin de cette fin du 19e siècle a été caractérisée, comme vous l'aviez dit, par de nouvelles lois. mais qui vont directement toucher maintenant les masses paysannes après celle du séquestre. La loi de l'indigénat, la loi de la naturalisation et la loi de la conscription. Alors, ce sont devant toute cette attirail de la dépossession maintenant du côté de l'administration, c'est un attirail administratif, les luttes frontales n'ont plus de sens. Il faut de nouvelles armes, une nouvelle conception de la lutte. Il n'était plus possible à l'Algérie, détruite, si vous voulez, physiquement, de mener une lutte frontale, grégaire, au sens anthropologique du terme, contre ces nouvelles formes d'un colonialisme triomphant.
Donc il y a eu des déplacements des populations vers les villages de cantonnement aussi.
Oui, c'est l'époque, voilà, c'est l'époque donc des grands exodes. Toutes les campagnes ont été défigurées et ce que nous avions dit, c'est que la ligne droite a remplacé les arabesques, c'est inspiré de Marc Cotte dans son livre « Algérie ou espace retourné ». Donc l'Algérie arrive au début du XXe siècle, ankylosée, défigurée, déstructurée, anéantie dans ses profondeurs socio-culturelles.
وعيد أول نوفمبر مبارك وسعيد بعد ما متنا اليوم أحيينا بعد ما متنا اليوم أحيينا يا 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 وعدونا لوحناه من البحر اللي راح بعيد يا يرحم الشهادة اللي حيوا بلادنا رجعت لينا واليوم كل جزائري يعيش سعيد يرحم الشهادة اللي حيوا بلادنا رجعت لينا واليوم كل جزائري يا 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 يعيش سعيد
Après la prise d'Alger, la conquête, même triomphante, en génocide et en expropriation, n'est pas encore et ne le sera jamais un fait accompli. La terrible épreuve de 1871 sera envers et contre tout, malgré le lourd tribut des insurgés, suivi d'autres insurrections à bout de force, à bout d'espoir, mais debout pour d'ultimes sursauts. En 1916, les Aurès se soulèvent encore. La résistance affaiblie physiquement reste farouche moralement. Mais les anciennes formes de lutte s'avèrent impuissantes. Partout, le pays est tracé, marqué. L'Algérie conquise va entrer dans les premières années du XXe siècle sur la scène des tempêtes internationales. Ses structures précoloniales, détruites, confrontées au capitalisme euphorique, l'Algérie sommeillante un instant, vint d'inertie et prend conscience tragiquement, graduellement, de sa condition de colonie. Aux luttes frontales inégales, désespérées, d'autres forces naissantes timides mais d'esprit moderne exigé de la politique coloniale vont assurer la reprise historique. La résistance refuse s'étiole, la résistance active est vaincue, la résistance passive, larmoyante de glorioles du lointain, passée des conquêtes islamiques et impuissantes. La résistance dialogue augure les premières années de 1900. Une nouvelle élite algérienne va tenter de défricher de nouvelles voies, des nouvelles formes d'action, germe d'un projet politique qui, quoi qu'on en dise, substitue au refus grégaire le dialogue avec le pouvoir colonial.
حزانك يا قلبي عجبه بتقلاب حزانك يا قلبي عجبه بتقلاب من همك لمحايا يا 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 العدو يطول نابني راحتي برد وجاب نابني راحتي برد وجاب له انوار محاسك كذبالو ناحل جسمك فيه منال شخاب يا 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 مثل الظلش فيه خيال اختالو محنة قلبي جهد في واعب مهاب يا 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 وضوم ونطع الموت عسس ودالو قلبي جات في واعمها دون نطع الموت عسس بداله خابت نفسي يا خليلي من الارهاب والمحنه تقوى وعنها مزالو يا لايمني فيه وهالحمي ذاب يا 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 خابت نفسي يا خليلي من الارهاب يا ودي تقوى وعنها مزالو يا لا يمني فيه وهل حميداب يا 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 كي نجحت عيني جوار حسالو اللي شاورت به ويظن وخاب يا 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 يا
راشد مختاري كيل سون لي تريبل باساج
enfin ces triples passages peuvent être résumés ainsi. Alors, nous avons d'abord la résistance refus, c'est celle donc, des révoltes agraires qui sont primitives dans ces formes de lutte, mais cette résistance refus devant les moyens du colonialisme, les moyens non seulement en armes, mais aussi en loi d'expropriation, cette résistance refus, même si elle persiste jusqu'aux premières années du XXe siècle, devient inefficace devant le colonialisme triomphant. Alors, nous passons à la deuxième forme de lutte, c'est la résistance passive. Cette résistance passive a été exprimée avec beaucoup d'éploration de révolte dans les poésies de Sima Hindou Mahand. On peut l'interpréter également comme les mouvements d'exode vers le Mashraq, de l'élite, des élites algériennes. C'est le cas, on peut citer le cas de la Casbah du début du XXe siècle.
Il y a eu un repli.
Forme de repli. La troisième forme, c'est ce que les sociologues, les socio-historiens appelle la reprise historique, c'est-à-dire nous passons d'une résistance refus vers la résistance passive, mais très vite, il y a une reprise historique, mais qui sera une conduite non plus frontale, mais une conduite de détour. C'est l'intelligentsia, c'est la naissance d'une nouvelle élite algérienne, même qui est faible, tâtonnante, mais qui va assurer qui va faire sortir l'Algérie de l'ankylose et qui va lui permettre une reprise historique. Voici, grosso modo, ces trois formes de résistance.
Oui, on a vu dans, dans notre précédente émission qu'il y avait donc une recrudescence du banditisme d'honneur qui a duré jusqu'en 1950.
Voilà, donc il y a ces... Bon, Abdelkader Djerloul a analysé cette... trois étapes de cette reprise, historique. Il y a d'abord les répercussions de la Première Guerre mondiale. C'est la première grande guerre qui a bouleversé la planète et à laquelle on participait de force, puisqu'ils étaient contraints par le code de l'indigénat, par le code de la conscription des masses d'Algériens. Deuxièmement, la Première Guerre mondiale va faire naître ou va permettre une recrudescence du banditisme d'honneur, puisque nous avons vu que c'était la période des grands bandits d'honneur qui vont désespérément assurer une continuité de la résistance refus. Et troisièmement, ce sont les nouveaux moyens donc de cette élite algérienne née au début des années 1900, ces nouveaux moyens de lutte, nous en avons parlé tout à l'heure.
Après les lois d'expropriation foncière, celle de la conscription, du code de l'indigénat, de la naturalisation qui exige du colonisé des moyens de lutte modernes, utilisant les instruments juridiques de ceux-là même qui les ont fabriqués. Il faut désormais une élite intellectuelle de la trempe de l'émir Abdelkader. Les événements se précipitent dans la colonie jetée sur d'autres tragédies et principalement la Première Guerre mondiale. En 1914, des contingents algériens ont participé à la guerre entre la France et la Prusse en 1870. En 1914, c'est l'enrôlement massif. À la fin de la Première Guerre mondiale, en 18, plus d'un tiers de la population masculine, des jeunes de 20 ans à 40 ans, furent utilisés en chair à canon. Cette guerre, souligne Djerloul, va avoir un impact détonateur sur la reprise des révoltes rurales en Algérie, sporadique, mais déjà annonciatrice de l'ingéniosité des nouvelles armes de combat. Révolte de Beni Chougrane en 1916, recrudescence du banditisme d'honneur avec Ben Zalmat dans l'Aurès, les refus d'incorporation et les désertions réactivent la résistance, les armes nouvelles de la résistance dialogue naissent. Les Algériens réquisitionnés enroulés en France ont appris les grèves syndicales et la formulation explicite de la revendication de l'indépendance portée par une élite intellectuelle, pointe en ces années de grands bouleversements. La résistance culturelle subit aussi des changements au sein de la société dominée. Les populations paysannes n'ont plus de chantres glorifiant les batailles, ni les poésies exutoires du passé mythique et celles érotiques et mystiques nées de la légende des bandits d'honneur. Tout cela a perdu la raison d'expression. La contestation de l'ordre colonial va agir au niveau purement symbolique et utiliser d'autres formes esthétiques en mélodie et message. C'est le début de la chanson populaire inspirée des tranchées de la guerre de 1914, légère, ironique, à souhait, goguenarde, parodiant parfois des airs du soldat français.
Thank you.
Donc on l'a dit tout à l'heure qu'à partir des années 1900, le pouvoir colonial se renforce et se structure, il va plus loin du moins. Les Algériens ont fait donc les deux guerres, celle de 1870, la France avec les Prusses, la Première Guerre mondiale, pour des causes qui ne sont pas les leurs. Et sur le plan international, il y a eu aussi la révolution d'octobre de 1917.
Toutes ces guerres ont eu des répercussions sur justement cette reprise historique. Mais pour caractériser cette reprise historique, disons que c'est une nouvelle intelligentsia, n'est-ce pas, formée dans l'appareil culturel même du colon. C'est la Première Guerre mondiale avec ses répercussions sur la prise de conscience du phénomène colonial va permettre à cette intelligentsia qui était faible à l'époque, on peut donner quelques chiffres de qu'est-ce qui composait cette intelligentsia. Les historiens donnent les chiffres suivants. Il y a eu 240 instituteurs à la veille de la Première Guerre mondiale. 240 instituteurs, 40 bacheliers et 25 avocats et médecins. Vous voyez que c'était vraiment très faible, une intelligentsia embryonnaire.
C'est-à-dire qu'on pouvait faire avocat pour défendre sa population, instituteur pour enseigner.
C'est cela.
C'est tout. Et les médecins pour soigner.
Et les médecins, mais c'était...
C'était les trois professions permises.
Oui, mais c'était très faible, c'était une intelligentsia très fragile. Et qui présentait le risque de se couper des masses populaires, du fait même qu'elle était, la plupart de ces avocats, de ces médecins ont été formés à l'École normale de
Bouzaria. Ensuite, nous verrons justement ces intellectuels qui ont été coupés des masses populaires. Il y a eu un enrôlement massif des Algériens pour faire la guerre. On avait dit tout à l'heure que c'était des chairs à canon. Est-ce que donc ces gens-là ont été pris sans formation militaire ?
Sans formation militaire, c'est-à-dire que la loi de la conscription C'est justement ce qui a fait la loi de la conscription, mm-hmm. c'est l'utilisation des indigènes sans condition aucune mm-hmm. sur les fronts, par exemple, pour les causes qui ne sont pas les leurs, mm-hmm. sous le drapeau français. Mm-hmm. Et ces premiers intellectuels, ce sont justement, avec les moyens modernes de cette résistance dialogue, se sont soulevés contre... C'est la loi de le code de l'indigénat contre la loi de la conscription, notamment, qui était à l'époque...
Essayez d'expliquer aux auditeurs ce que c'était la loi de l'indigénat.
Le code.
Le code, pardon, de l'indigénat.
Le code de l'indigénat. Oui. C'est-à-dire, en termes simples, c'est que l'Algérien... n'avait plus de personnalité, c'est-à-dire qu'il était devenu un sous-être. Oui. Un sous-être, il n'avait pas, il avait perdu toute sa personnalité, à la fois géographique, à la fois culturelle et à la fois politique. C'était mm-hmm. l'indigène. C'était
donc il n'avait pas le droit de voter.
Il n'avait pas le droit de voter, absolument. Mm-hmm. Et ses premiers intellectuels, justement, dans cette résistance dialogue, par le biais des syndicats, par le biais des pétitions, se sont insurgés contre le code de l'indigène.
Oui, oui. Rachel Mourtaï, on peut dire qu'il y a eu une prise de conscience progressive avec d'abord le mouvement syndical, les grèves ouvrières, solidarité prolétarienne qui se sont exprimées. Puis l'émergence de nouveaux journaux, favorables à la cause de l'indigénat.
Ce sont les nouveaux moyens culturels de lutte. Mmh. Nous avons dit qu'au traditionnalisme des résistances, du refus, du fait accompli, de la soumission. Il n'y a pas eu, là, on l'a vu dans les émissions précédentes, qu'il n'y a pas eu une soumission effective de l'Algérie. Donc cette élite va substituer au traditionnalisme des résistances agraires d'autres formes de résistance, celles qui vont désormais utiliser les armes même du conquérant et tenter de le retourner contre lui.
C'est-à-dire en utilisant les lois.
Voilà, c'est ce que nous appelons la résistance détour. Au lieu qu'elle soit frontale, elle est indirecte, si vous voulez. Mm-hmm. Alors, parmi ces moyens culturels, ces nouveaux moyens culturels de lutte, nous avons, en ce début du XXe siècle, la presse, mm-hmm. notamment le journal Al Misbah, né en 1904, mm-hmm. le Al Haq, né en 1912, qui vont tenter... il faut dire que ces deux journaux étaient dirigés par une équipe rédactionnelle algérienne, d'une petite élite d'Algériens qui vont créer, ou du moins tenter de créer une opinion publique algérienne. Mm-hmm. Nous avons également la naissance des cercles culturels, dont un inventaire a été fait par Djerlour, par exemple en 1902, la naissance du cercle culturel La Rachidia. Et tant d'autres. Nous avons également, vous l'aviez dit, les représentations syndicales et d'autres formes de lutte, à savoir les pétitions, les délégations, les meetings. Alors toutes ces formes de lutte vont non pas utiliser les formes anciennes de combat, mais tenter de montrer aux colons, au pouvoir colonial, que cette résistance dialogue n'est pas assimilation, bien sûr, mais qu'elle va apporter...
C'est aussi une forme de protestation.
Qu'elle va apporter des protestations, mais avec un esprit moderne.
Oui. Donc le dialogue était...
Le dialogue était enclenché avec le pouvoir colonial.
Vous dites, comme ça, pas directement, mais cette élite intellectuelle algérienne, elle a été coupée des masses populaires. Pourquoi ?
C'est-à-dire qu'elle présentait des risques d'être coupée des masses populaires.
Mais avec les meetings, les journaux, est-ce qu'on peut considérer...
Oui, mais ces journaux n'étaient pas lus par la masse paysanne. Mm-hmm. N'étaient pas lus par la masse paysanne, mais... L'intérêt qu'elle présentait, c'était un intérêt d'abord d'une modernité urbaine, c'est que ces premiers Algériens qui constituaient l'intelligentsia s'adressaient davantage aux colonisateurs plutôt qu'aux colonisés. C'est-à-dire aux colonisateurs, elle lui montrait qu'il n'y a pas une soumission totale, n'est-ce pas ? Et en ces débuts, c'était surtout des revendications syndicales. C'est-à-dire que cette intelligentsia cherchait du pouvoir, demandait au pouvoir colonial d'apporter ici des amendements, là des retouches. Ce n'était pas une revendication politique révolutionnaire. Mmh. Hein.
Mais on n'a pas pour autant ignoré toutes ces masses populaires. On ne peut pas dire qu'elle les a ignorées.
Non, elle ne les a pas ignorées. Mais disons que cette prise de conscience va progressivement sortir des revendications parlementaires, syndicales, pétitions, et progressivement s'acheminer vers la revendication donc de l'indépendance nationale.
شفت عوار مشايبات رمقة الليالي جيت عوار بمكينكي بالمدقوق بشفرة أفرة للناس يا والبطل متمحل بد ما ويتقدم ما ويخضل غفر الزيار فلا ويلاقي ولا كل غيت واب كل غيت لي اجلست مع خيرا كل ذنوب كل ذنوب والغرام هذا لزمان يا من فارقته شايفه واد الجيل مرضاه مشي قلبي مرضى ولا عشق لا يا ولا تأليفات
Pour notre rubrique littéraire,
oui.
Peut-on citer quelques auteurs qui ont écrit, qui ont fait des études mm-hmm. sur cette période ?
Alors, on peut classer un certain nombre d'ouvrages, non pas uniquement sur la période de la résistance dialogue, mais au niveau des trois formes de résistance. Disons que pour la résistance refus, on ne peut que citer les ouvrages de référence de Mostafa Lachraf. Nous avons Algérie, Nation et Société, les écrits didactiques qui restent un classique dans l'explication, dans l'analyse des résistances agraires, et le tout dernier, donc de sa réflexion sur le patriotisme rural, nous avons Algérie et Tiers-Monde.
Oui.
Maintenant, concernant la résistance dialogue, il y a les écrits journalistiques de Abdelkader Djerloul qui a analysé, qui donne des portraits justement des premiers Algériens qui ont constitué cette élite algérienne, n'est-ce pas ? Nous avons également, pour la résistance dialogue, mm-hmm. nous avons les ouvrages didactiques, référentiels de de Mahfoudh Kaddash, notamment les trois études consacrées, la première à l'étoile nord-africaine, donc du début des années 20, avec cette prise de conscience du phénomène colonial et de la revendication de l'indépendance nationale. Nous avons également le portrait qu'il a consacré à l'émir Khaled, puisque c'est l'une des figures historiques qui va permettre cette reprise, la redynamisation d'une Algérie qui va entrer, qui va devenir un agent historique. Et sa troisième étude consacrée donc au PPA, donc qui va être l'ancêtre donc de la deuxième phase de la reprise historique avec le mouvement de la guerre de libération nationale. Voici donc comment on peut
un éventail des productions
classées en fonction des résistances, de la résistance refus vers la résistance dialogue. Et l'intérêt des ouvrages de Mahfoudh Kaddash, c'est qu'il y a publication de documents historiques, c'est-à-dire nous avions cité par exemple les journaux Al-Misbah, Al-Haq et dans ses études donc de Mahfoudh Kaddash, il offre au lecteur les documents de l'époque et lui laisse l'initiative d'interpréter, de lire, d'interpréter ces documents et d'analyser tous les écrits de l'époque, entre autres le programme de l'étoile nord-africaine et le programme du PPA, analyser les revendications, l'évolution justement de cette prise de conscience.
De conscience. Voilà, alors amis auditeurs, j'espère que vous avez passé d'agréables instants. C'est le moment, donc, ou jamais, Achid Mokhtari et moi-même, de vous souhaiter de passer une bonne soirée et de vous souhaiter aussi une bonne année.
Une bonne année.